Le salaire n'est donc pas déterminé, en général, seulement par la masse de marchandises que je peux obtenir en échange. Il renferme divers rapports. Ce que les ouvriers reçoivent tout d'abord pour leur force de travail, c'est une somme d'argent déterminée. Le salaire n'est-il déterminé que par ce prix en argent? Au XVIe siècle, l'or et l'argent en circulation en Europe augmentèrent par suite de la découverte en Amérique de mines plus riches et plus faciles à exploiter. De ce fait, la valeur de l'or et de l'argent baissa par rapport aux autres marchandises. Les ouvriers continuèrent à recevoir la même masse d'argent monnayée pour leur force de travail. Le prix en argent de leur travail resta le même. Et cependant, leur salaire avait baissé, car, en échange de la même quantité d'argent, ils recevaient une somme moindre d'autres marchandises. Ce fut une des circonstances qui favorisèrent l'accroissement du capital, l'essor de la bourgeoisie au XVIe siècle. Prenons un autre cas. Dans l'hiver de 1847, les produits alimentaires les plus indispensables, le blé, la viande, le beurre, le fromage, etc., par suite d'une mauvaise récolte, avaient considérablement augmenté de prix. Supposons que les ouvriers aient continué à recevoir la même somme d'argent pour leur force de travail. Leur salaire n'avait-il pas baissé? Mais si. Pour la même somme d'argent, ils recevaient en échange moins de pain, de viande, etc. Leur salaire avait baissé, non point parce que la valeur de l'argent avait diminué, mais parce que la valeur des moyens de subsistance avait augmenté. Supposons enfin que le prix en argent du travail reste le même, alors que tous les produits agricoles et manufacturés ont baissé de prix par suite de l'emploi de nouvelles machines, d'une saison plus favorable, etc. Pour la même quantité d'argent, les ouvriers peuvent alors acheter plus de marchandises de toutes sortes. Donc, leur salaire a augmenté, précisément parce que la valeur en argent de celui-ci n'a pas changé. Donc, le prix en argent du travail, le salaire nominal, ne coïncide pas avec le salaire réel, c'est-à-dire avec la quantité de marchandises qui est réellement donnée en échange du salaire. Donc, lorsque nous parlons de hausse ou de baisse du salaire, nous ne devons pas seulement considérer le prix en argent du travail, le salaire nominal. Mais ni le salaire nominal, c'est-à-dire la somme d'argent pour laquelle l'ouvrier se vante au capitaliste, ni le salaire réel, c'est-à-dire la quantité de marchandises qu'il peut acheter avec cet argent, n'épuisent les rapports contenus dans le salaire. Le salaire est encore déterminé avant tout par son rapport avec le gain, avec le profit du capitaliste, le salaire relatif, proportionnel. Le salaire réel exprime le prix du travail relativement au prix des autres marchandises. Le salaire relatif, par contre, la part du travail immédiat à la nouvelle valeur qu'il a créée, par rapport à la part qui en revient au travail accumulé, au capital. Nous disions plus haut, page 29, ouvrez les guillemets. Le salaire n'est donc pas une part de l'ouvrier à la marchandise qu'il produit. Le salaire est la partie d'une marchandise déjà existante avec laquelle le capitaliste achète une quantité déterminée de force de travail productive. Fermez les guillemets. Mais ce salaire, il faut que le capitaliste le retrouve dans le prix auquel il vend le produit fabriqué par l'ouvrier. Il faut qu'il le retrouve de façon qu'en règle générale, il lui reste encore un excédent sur ses frais de production engagés, un profit. Le prix de vente de la marchandise produite par l'ouvrier se divise pour le capitaliste en trois parties. Premièrement, le remplacement du prix des matières premières qu'il a avancé, ainsi que le remplacement de l'usure des instruments, machines et autres moyens de travail qu'il a également avancé. Deuxièmement, le remplacement du salaire qu'il a avancé. Et troisièmement, ce qui est en excédent, le profit du capitaliste. Alors que la première partie ne remplace que des valeurs qui existaient auparavant, il est clair que le remplacement du salaire, tout comme le profit excédentaire du capitaliste, proviennent somme toute de la nouvelle valeur créée par le travail de l'ouvrier et ajoutée aux matières premières. Et c'est dans ce sens que nous pouvons considérer aussi bien le salaire que le profit, quand nous les comparons ensemble, comme des parts du produit de l'ouvrier. Que le salaire réel reste le même, qu'il augmente même, le salaire relatif, lui, n'en peut pas moins baisser. Supposons par exemple que tous les moyens de subsistance aient baissé de prix des deux tiers, alors que le salaire journalier ne baisse que d'un tiers, c'est-à-dire tombe par exemple de 3 francs à 2 francs. Bien que l'ouvrier, avec ses 2 francs, dispose d'une plus grande quantité de marchandises qu'auparavant avec 3 francs, son salaire a cependant diminué par rapport aux bénéfices du capitaliste. Le profit du capitaliste, ouvrez la parenthèse, par exemple du fabricant, fermez la parenthèse, a augmenté d'un franc. C'est-à-dire que pour une somme moindre de valeur d'échange qu'il paie à l'ouvrier, il faut que l'ouvrier produise une plus grande quantité de valeur d'échange qu'auparavant. La part du capital, proportionnellement à la part du travail, s'est accrue. La répartition de la richesse sociale entre le capital et le travail est devenue encore plus inégale. Le capitaliste commande avec le même capital une quantité plus grande de travail. La puissance de la classe capitaliste sur la classe ouvrière a grandi, la situation sociale de l'ouvrier a empiré, elle est descendue d'un degré de plus au-dessous de celle du capitaliste. Mais quelle est donc la loi générale qui détermine la hausse et la baisse du salaire et du profit dans leurs relations réciproques? Ils sont en rapport inverse. La part du capital, le profit, monte dans la mesure même où la part du travail, le salaire, baisse. Et inversement. Le profit monte dans la mesure où le salaire baisse. Il baisse dans la mesure où le salaire monte. On objectera peut-être que le capitaliste peut faire du bénéfice grâce à un échange avantageux de ses produits avec d'autres capitalistes, grâce à une demande plus grande de sa marchandise, ou par suite de l'ouverture de nouveaux marchés, ou encore du fait de l'augmentation momentanée des besoins sur les anciens marchés, etc. Que le profit du capitaliste peut donc s'accroître du fait que d'autres capitalistes ont été dupés dans l'échange, indépendamment de la hausse ou de la baisse du salaire, de la valeur d'échange de la force de travail, ou que le profit peut également s'accroître grâce au perfectionnement des instruments de travail, à une nouvelle utilisation des forces naturelles, etc. On devra tout d'abord reconnaître que le résultat reste le même, bien qu'on y arrive par le chemin inverse. Le profit n'a pas augmenté parce que le salaire a diminué, mais le salaire a diminué parce que le profit a augmenté. Le capitaliste a acheté, avec la même quantité du travail d'autrui, une plus grande quantité de valeur d'échange sans avoir pour cela payé plus cher le travail. C'est-à-dire par conséquent que le travail est moins payé par rapport au bénéfice net qu'il laisse au capitaliste. En outre, rappelons qu'en dépit des oscillations des prix des marchandises, le prix moyen de chaque marchandise, le rapport suivant lequel elle est échangée contre d'autres marchandises, est déterminé par ses frais de production. Les duperies mutuelles au sein de la classe capitaliste se feront donc nécessairement équilibre. le perfectionnement du machinisme, l'emploi de nouvelles forces naturelles au service de la production permettent, dans un temps de travail donné, avec la même quantité de travail et de capital, de créer une plus grande masse de produits, mais nullement une plus grande masse de valeur d'échange. Si, grâce à l'emploi de la machine à filer, je puis livrer en une heure 2 fois plus de fils qu'avant son invention, par exemple 100 livres au lieu de 50, je ne reçois à la longue pas plus de marchandises en échange qu'auparavant pour 50, parce que les frais de production sont tombés de moitié, ou que je puis livrer avec les mêmes frais le double du produit. Enfin, quel que soit le rapport suivant lequel la classe capitaliste, la bourgeoisie, soit d'un pays, soit du marché mondial tout entier, répartissent entre elles le bénéfice net de la production, la somme totale de ce bénéfice net n'est chaque fois que la somme dont le travail accumulé a été en somme accrue par le travail immédiat. Cette somme totale s'accroît donc suivant le rapport d'après lequel le travail augmente le capital, c'est-à-dire suivant le rapport d'après lequel le profit s'accroît au détriment du salaire. Nous voyons donc que même si nous nous en tenons aux limites des rapports entre le capital et le travail salarié, les intérêts du capital et les intérêts du travail salarié sont diamétralement opposés. Un accroissement rapide du capital équivaut à un accroissement rapide du profit. Le profit ne peut s'accroître rapidement que si le prix du travail, si le salaire relatif, diminue avec la même rapidité. Le salaire relatif peut baisser, même si le salaire réel monte, en même temps que le salaire nominal, la valeur en argent du travail, mais à condition que ces derniers ne montent pas dans la même proportion que le profit. Si par exemple, dans les périodes d'affaires favorables, le salaire monte de 5% et le profit par contre de 30%. Le salaire proportionnel, le salaire relatif, n'a pas augmenté, mais diminué. Si donc le revenu de l'ouvrier augmente par l'accroissement rapide du capital, l'abîme sociale qui sépare l'ouvrier du capitaliste s'élargit en même temps. La puissance du capital sur le travail, l'état de dépendance du travail envers le capital grandissent du même coup. Dire « l'ouvrier a intérêt à un accroissement rapide du capital », cela signifie seulement « plus l'ouvrier augmente rapidement la richesse d'autrui, plus les miettes du festin qu'il recueille sont substantielles. Plus on peut occuper d'ouvriers et les faire se reproduire, plus on peut multiplier la masse des esclaves sous la dépendance du capital. » Nous avons donc constaté, même la situation la plus favorable pour la classe ouvrière, l'accroissement le plus rapide possible du capital, quelque amélioration qu'il apporte à la vie matérielle de l'ouvrier, ne supprime pas l'antagonisme entre ses intérêts et les intérêts du bourgeois, les intérêts du capitaliste. Profit et salaire sont, après comme avant, en rapport inverse. Lorsque le capital s'accroît rapidement, le salaire peut augmenter, mais le profit du capital s'accroît relativement plus vite. La situation matérielle de l'ouvrier s'est améliorée, mais aux dépens de sa situation sociale. L'abîme sociale qui le sépare du capitaliste s'est élargie. Enfin, dire que la condition favorable pour le salaire est un accroissement aussi rapide que possible du capital signifie seulement que plus la classe ouvrière augmente et accroît la puissance qui lui est hostile, la richesse étrangère qui la commande, plus favorables seront les circonstances dans lesquelles il lui sera permis, à nouveau, de travailler à l'augmentation de la richesse bourgeoise, au renforcement de la puissance du capital, contente qu'elle est de forger elle-même les chaînes dorées avec lesquelles la bourgeoisie la traîne à sa remorque. La croissance du capital productif et l'augmentation du salaire sont-elles vraiment liées aussi inséparablement que le prétendent les économistes bourgeois ? Nous ne devons pas les croire sur parole. Nous ne devons même pas les croire lorsqu'ils disent que plus le capital est gras, plus son esclave s'engraisse. La bourgeoisie est trop avisée. Elle calcule trop bien pour partager les privilèges à la façon du grand seigneur qui tire vanité de l'éclat de sa domesticité. Les conditions d'existence de la bourgeoisie la contraignent à calculer. Nous devrons donc étudier cela de plus près. Quel est l'effet de l'accroissement du capital productif sur le salaire ? Lorsque le capital productif de la société bourgeoise s'accroît, c'est qu'il se produit en somme une accumulation de travail plus générale. Les capitalistes augmentent en nombre et en importance. La multiplication des capitalistes augmente la concurrence entre eux. L'importance croissante des capitaux permet d'amener sur le champ de bataille industriel des armées plus formidables d'ouvriers avec des engins de guerre plus gigantesques. Un capitaliste ne peut évincer l'autre et s'emparer de son capital qu'en vendant meilleur marché. Pour pouvoir vendre meilleur marché sans se ruiner, il faut produire meilleur marché, c'est-à-dire accroître autant que possible la productivité du travail. Mais la productivité du travail augmente surtout par une division plus grande du travail, par l'introduction plus générale et le perfectionnement constant du machinisme. Plus est grande l'armée des ouvriers entre lesquels le travail est divisé, plus le machinisme est introduit à une échelle gigantesque, et plus les frais de production diminuent en proportion, plus le travail devient fructueux. De là, une émulation générale entre les capitalistes pour augmenter la division du travail et du machinisme et les exploiter l'un et l'autre à la plus grande échelle possible. Mais si un capitaliste, grâce à une plus grande division du travail, à l'emploi et au perfectionnement de nouvelles machines, grâce à l'utilisation plus avantageuse et sur une plus grande échelle des forces naturelles, a trouvé le moyen de créer, avec la même somme de travail ou de travail accumulé, une somme plus grande de produits, de marchandises que ses concurrents. S'il peut, par exemple, dans le même temps de travail où ses concurrents tissent une demi-aune de drap, produire une aune entière de drap, comment le capitaliste va-t-il opérer ? Il pourrait continuer à vendre une demi-aune de drap au prix antérieur du marché. Mais ce ne serait pas le moyen d'évincer ses adversaires et d'augmenter son propre débit. Or, au fur et à mesure que sa production s'est étendue, le besoin d'écoulement s'est également élargi pour lui. Les moyens de production plus puissants et plus coûteux qu'il a créés lui permettent bien de vendre sa marchandise meilleur marché, mais ils le contraignent en même temps de vendre plus de marchandises, de conquérir un marché infiniment plus grand pour ses marchandises. Notre capitaliste va donc vendre la demi-aune de drap meilleur marché que ses concurrents. Mais le capitaliste ne vendra pas l'aune entière aussi bon marché que ses concurrents vendent la demi-aune, bien que la production de l'aune entière ne lui coûte pas plus que ne coûte aux autres celle de la demi-aune. Sinon, il n'aurait aucun surbénéfice et ne recevrait en échange que ses frais de production. Dans ce cas, son revenu plus grand proviendrait du fait qu'il a mis en œuvre un capital plus élevé, et non pas du fait qu'il aurait fait rendre à son capital plus que les autres. D'ailleurs, il atteint le but qu'il cherche en mettant le prix de sa marchandise seulement de quelques pourcents plus bas que ses concurrents. Il les évince du marché, il leur enlève tout au moins une partie de leur écoulement, en vendant à plus bas prix. Enfin, rappelons-nous que le prix courant est toujours au-dessus ou au-dessous des frais de production, suivant que la vente d'une marchandise tombe dans une saison favorable ou défavorable à l'industrie. Selon que le prix du marché de l'aune de drap est au-dessus ou au-dessous des frais ordinaires de sa production antérieure, le capitaliste qui a employé de nouveaux moyens de production plus avantageux vendra au-dessus de ses frais de production réels, suivant des pourcentages différents. Mais le privilège de notre capitaliste n'est pas de longue durée. D'autres capitalistes rivaux introduisent les mêmes machines, la même division du travail, le font à la même échelle ou à une échelle plus grande. Et cette amélioration se généralise juste au moment où le prix du drap s'abaisse, non seulement au-dessous de ses anciens frais de production, mais au-dessous de ses nouveaux frais. Les capitalistes se trouvent donc à l'égard les uns des autres dans la même situation où ils se trouvaient avant l'introduction de la nouvelle production. Et si, avec ces moyens, ils peuvent livrer pour le même prix le double du produit, ils sont maintenant contraints de livrer au-dessous de l'ancien prix leur production double. Ces nouveaux moyens de production étant établis, le même jeu recommence. Plus grande division de travail, plus de machinisme, plus grande échelle à laquelle sont utilisées division du travail et machinisme. Et la concurrence produit de nouveau la même réaction contre ce résultat. Nous voyons ainsi comment le mode de production, les moyens de production, sont constamment bouleversés, révolutionnés. Comment la division du travail entraîne nécessairement une division du travail plus grande, l'emploi du machinisme, un plus grand emploi du machinisme, le travail à une grande échelle, le travail à une échelle plus grande encore. Telle est la loi qui rejette constamment la production bourgeoise hors de son ancienne voie et qui contraint toujours le capital à tendre les forces de production du travail une fois qu'il les a tendues. Telle est cette loi qui ne lui accorde aucun repos et lui murmure continuellement à l'oreille « Marche, marche !» Cette loi n'est autre chose que la loi qui, dans les limites des oscillations des époques commerciales, maintient nécessairement le prix d'une marchandise égal à ses frais de production. Aussi formidables que soient les moyens de production avec lesquels un capitaliste entre en campagne, la concurrence généralisera ces moyens de production. Et dès l'instant qu'ils sont généralisés, le seul avantage du rendement plus grand de son capital est qu'il lui faut alors, pour le même prix, livrer 10, 20, 100 fois plus qu'auparavant. Mais comme il lui faut écouler peut-être 1000 fois plus pour compenser par la masse plus grande du produit écoulé le prix de vente plus bas, parce qu'une vente par masse plus considérable est maintenant nécessaire, non seulement pour gagner davantage, mais pour récupérer les frais de production, l'instrument de production lui-même, ainsi que nous l'avons vu, devenant de plus en plus cher, et comme cette vente en masse est une question vitale, non seulement pour lui, mais pour ses rivaux, l'ancienne lutte se fait d'autant plus violente que les moyens de production déjà inventés sont plus fructueux. La division du travail et l'emploi du machinisme continuent donc à se développer à une échelle infiniment plus grande. Quelle que soit donc la puissance des moyens de production employés, la concurrence cherche à ravir au capital les fruits d'or de cette puissance en ramenant le prix de la marchandise à ses frais de production, élevant ainsi la production à bon marché, la livraison de masse de plus en plus grande de produits pour la même somme, à la hauteur d'une loi impérieuse, à mesure qu'elle produit davantage avec la même quantité de travail. Ainsi donc, par ses propres efforts, le capitaliste n'aurait rien gagné que l'obligation de fournir davantage dans le même temps de travail, en un mot, que des conditions plus difficiles de rendement de son capital. Par conséquent, comme la concurrence le poursuit constamment par le moyen de la loi des frais de production, et que chaque arme qu'il forge contre ses rivaux se retourne contre lui-même, le capitaliste cherche constamment à l'emporter sur la concurrence en introduisant sans répit, à la place des anciennes, des machines et des méthodes nouvelles de division du travail, plus coûteuses sans doute, mais produisant un meilleur marché, sans attendre que la concurrence ait rendu surannées les nouvelles. Représentons-nous maintenant cette agitation fiévreuse sur le marché mondial tout entier. Et nous comprendrons comment la croissance, l'accumulation et la concentration du capital ont pour conséquence une division du travail ininterrompue, de plus en plus précipitée et exécutée à une échelle toujours plus gigantesque, l'emploi d'un nouveau machinisme et le perfectionnement de l'ancien. Mais quels sont, sur la détermination du salaire, les effets de ces circonstances inséparables de l'accroissement du capital producteur? La division plus grande du travail permet à un ouvrier de faire le travail de 5, 10, 20. Elle rend donc la concurrence entre les ouvriers 5, 10, 20 fois plus grande. Les ouvriers ne se font pas seulement concurrence en se vendant meilleur marché les uns que les autres. Ils se font concurrence par le fait qu'un seul accomplit le travail de 5, 10, 20. Et c'est la division du travail introduite par le capital et toujours plus renforcée qui contraint les ouvriers à se faire cette sorte de concurrence. De plus, le travail est simplifié dans la mesure même où augmente la division du travail. L'habileté particulière de l'ouvrier perd sa valeur. Celui-ci est transformé en une force productrice simple, monotone, qui ne met en jeu aucun effort corporel et intellectuel. Son travail devient du travail accessible à tous. C'est pourquoi les concurrents font de tous les côtés pression sur l'ouvrier. Souvenons-nous en outre que plus le travail est simple et facile à apprendre, moins on a besoin de frais de production pour se l'assimiler, et plus le salaire s'abaisse, car il est déterminé, comme le prix de toute autre marchandise, par ses frais de production. Au fur et à mesure donc que le travail devient moins agréable, plus répugnant, la concurrence augmente et le salaire diminue. L'ouvrier cherche à conserver la masse de son salaire en travaillant davantage, soit en faisant plus d'heures, soit en fournissant davantage dans la même heure. Poussé par la misère, il augmente donc encore les effets funestes de la division du travail. Le résultat est que plus il travaille, moins il reçoit de salaire. Et cela pour la simple raison qu'au fur et à mesure qu'il concurrence ses compagnons de travail, il fait de ceux-ci autant de concurrents qui se vendent à des conditions aussi mauvaises que lui-même. Et parce qu'en définitive, c'est à lui-même qu'il fait concurrence, à lui-même en tant que membre de la classe ouvrière. Le machinisme produit les mêmes effets à une échelle encore plus grande, en évinçant les ouvriers habiles et en les remplaçant par des ouvriers malhabiles. Les hommes par des femmes, les adultes par des enfants. En jetant, là où un nouveau machinisme est introduit, les ouvriers en masse sur le pavé. Et là où il est développé, perfectionné, remplacé par un machinisme de meilleur rendement, en congédiant par paquets les ouvriers. Nous avons esquissé plus haut, de façon rapide, la guerre des industriels entre eux. Cette guerre a ceci de particulier, que les batailles y sont moins gagnées par le recrutement que par le congédiement de l'armée ouvrière. Les généraux, les capitalistes, rivalisent à qui pourra licencier le plus de soldats d'industrie. Les économistes nous racontent bien, il est vrai, que les ouvriers rendus superflus par les machines trouvent de nouvelles branches d'occupation. Ils n'osent pas affirmer directement que les mêmes ouvriers qui ont été congédiés trouveront à se caser dans de nouvelles branches de travail. Les faits hurlent trop fort contre ce mensonge. À vrai dire, ils affirment seulement que, pour d'autres parties de la classe ouvrière, par exemple pour la partie des jeunes générations d'ouvriers qui étaient sur le point d'entrer dans la branche d'industrie périclitante, il se présentera de nouveaux moyens d'occupation. Naturellement, c'est une grande satisfaction, n'est-ce pas, pour les ouvriers jetés à la rue. Messieurs les capitalistes ne manqueront pas de chair fraîche à exploiter. On laissera les morts enterrer leurs morts. Cela est bien plus une consolation que les bourgeois se donnent à eux-mêmes qu'aux ouvriers. Si toute la classe des salariés était anéantie par le machinisme, quelle chose effroyable pour le capital qui, sans travail salarié, cesse d'être du capital. Mais supposons que les ouvriers chassés directement du travail par le machinisme et toute la partie de la nouvelle génération qui guettait leur place trouvent une occupation nouvelle. Croit-on que celle-ci sera payée aussi cher que celle qu'ils ont perdue ? Cela serait en contradiction avec toutes les lois économiques. Nous avons vu comment l'industrie moderne tend toujours à substituer à une occupation complexe, supérieure, une occupation plus simple, inférieure. Comment une masse ouvrière jetée hors d'une branche industrielle par le machinisme pourrait-elle donc se réfugier dans une autre, autrement qu'en étant payée plus mal, à un prix plus bas ? On a cité comme une exception les ouvriers qui travaillent à la fabrication du machinisme même. Dès que l'industrie exige et consomme plus de machinisme, a-t-on dit, les machines doivent nécessairement augmenter en nombre, et par suite, la fabrication des machines, donc aussi le nombre des ouvriers occupés à la fabrication des machines. Et les ouvriers employés dans cette branche d'industrie sont des ouvriers habiles, voire même qualifiés. Depuis l'année 1840, cette affirmation qui, déjà auparavant, était à moitié vraie seulement, a perdu toute apparence de valeur, puisque de façon de plus en plus générale, les machines furent autant employées à fabriquer les machines qu'à produire le fil de coton, et que les ouvriers employés dans les fabriques de machines face aux machines extrêmement perfectionnées, ne purent plus jouer que le rôle de machines tout à fait rudimentaires. Mais au lieu de l'homme chassé par la machine, la fabrique n'occupe-t-elle pas peut-être 3 enfants et 1 femme ? Or, le salaire de l'homme ne devait-il pas être suffisant pour les 3 enfants et la femme ? Le minimum du salaire ne devait-il pas suffire à entretenir et à reproduire la race ? Que prouve donc cette façon de s'exprimer, chère aux bourgeois ? Rien d'autre que ceci. 4 fois plus d'existence ouvrière qu'autrefois se consume pour faire vivre une seule famille ouvrière. Résumons-nous. Plus le capital producteur s'accroît, plus la division du travail et l'emploi du machinisme prennent d'extension, plus la concurrence gagne parmi les ouvriers, et plus leur salaire se resserre. Ajoutons encore que la classe ouvrière se recrute dans les couches supérieures de la société. Il s'y précipite une masse de petits industriels et de petits rentiers qui n'ont rien de plus pressé que de lever les bras à côté de ceux des ouvriers. C'est ainsi que la forêt des bras qui se lèvent pour demander du travail se fait de plus en plus épaisse et les bras eux-mêmes de plus en plus maigres. Il est de toute évidence que le petit industriel ne peut pas résister dans une guerre dont une des conditions premières est de produire à une échelle toujours plus grande, c'est-à-dire d'être un gros et non point un petit industriel. Que l'intérêt du capital diminue au fur et à mesure que la masse et le nombre des capitaux augmentent, que le capital s'accroît, que par conséquent le petit rentier ne peut plus vivre de sa rente, qu'il lui faut par conséquent se rejeter sur l'industrie, c'est-à-dire aider à grossir les rangs des petits industriels et de cette façon les candidats au prolétariat, tout cela n'a pas besoin de plus ample explication. Au fur et à mesure, enfin, que les capitalistes sont contraints, par le mouvement décrit plus haut, d'exploiter à une échelle plus grande les moyens de production gigantesques déjà existants, et dans ce but de mettre en action tous les ressorts du crédit, les tremblements de terre industriels, au cours desquels le monde commercial ne se maintient qu'en sacrifiant aux dieux des enfers une partie de la richesse, des produits et même des forces de production, deviennent plus nombreux. En un mot, les crises augmentent. Elles deviennent de plus en plus fréquentes et de plus en plus violentes. Déjà, parce qu'au fur et à mesure que la masse des produits et par conséquent le besoin de marchés élargis s'accroissent, le marché mondial se rétrécit toujours davantage et qu'il reste de moins en moins de marchés à exploiter. Car chaque crise précédente a soumis au commerce mondial un marché échappé jusqu'ici à la conquête ou exploité de façon encore superficielle par le commerce. Mais le capital ne fait pas que vivre du travail. Maître à la fois distingué et barbare, il entraîne dans sa tombe les cadavres de ses esclaves, des hécatombes entières d'ouvriers qui sombrent dans les crises. Ainsi, nous voyons que, lorsque le capital s'accroît rapidement, la concurrence entre les ouvriers s'accroît de manière infiniment plus rapide. C'est-à-dire que les moyens d'occupation, les moyens de subsistance pour la classe ouvrière diminuent dans une proportion plus grande. Et que néanmoins, l'accroissement rapide du capital est la condition la plus favorable pour le travail salarié.